Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. Nous sommes le mercredi 7 juillet 2021 et il fait beau dans le Beaujolais et enfin du soleil, bon quelques nuages et des températures qui ne devraient pas dépasser les 25 degrés. Que demander de plus? Et bien pourquoi pas demander un chouette programme d'émission. Ne bougez pas, vous allez être servi. On va parler d'économie avec le prof Patrick, on va faire un point sur l'actu cinéma en fin d'émission. Mais d'abord on retrouve nos invités du jour avec qui on va parler dans quelques minutes. Il s'agit d'Éric Martin. Avec moi en studio et par téléphone David Besnet, sont les auteurs des aventures des frères Bompier, la bande dessinée Made in Beaujolais et qui se passe dans le Beaujolais avec comme personnage central un beau duo, plus vrai que nature, Pierre et Michel Bompier. Le troisième tome, La prophétie de l'ermite, est paru le 25 juin dernier. Cette fois-ci, les frères Bompier se lancent à la rescousse du Mont Brouilly avec l'aide de leur ami le curé Trécy. Une nouvelle belle histoire qui mélange humour, patrimoine et culture locale, mais pas que, c'est très malin à nouveau. On va parler dans quelques instants avec David Besnet et Éric Martin des frères Bompier. Mais d'abord on écoute un peu de musique. Bernard Joyer et Yves Jamais nous chantent Les Frangins. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci d'être avec nous.
Généalogiques ont des branches pas très logiques. On peut fouiller jusqu'aux racines, y'a pas trace d'une cousine. Même sous les feuilles jaunies, aucun moineau tombé du nid. Pas le moindre parent commun, de l'infini jusqu'au zéro. Pourtant frérot, on est frangins, on est des frangins mon frérot. Ça vient pas de la naissance, on fait à peine connaissance. Dans nos yeux, y'a le même rire, la même larme pour écrire. Sur le même papier bavard, la même encre au même buvard. Sur la planche, le même pain, dans la vie, les mêmes héros. Tu vois, frérot, on est frangins, on est des frangins, mon frérot.
On a les mêmes cicatrices, ces trucs qui jamais ne guérissent.
Les douleurs qui viennent et repartent, qu'on situe pas bien sur la carte. De Vierzon à Mont-Saint-Aignan, tout côté du palpitant. Mais on pointe à l'heure au chagrin, et on trinque au même bistrot. Tu vois frérot, on est frangins, on est des frangins mon frérot. D'avoir trop enterré les potes. Rêve d'amour, amour de rêve. Copain d'humour, poteau de grève.
La faucheuse peut nous faire de l'œil.
On glissera rien dans son larfeuille. On va lui poser un lapin pour faire la nique à son macro. Tu vois frérot, on est frangins, on est des frangins mon frérot.
La terre n'est pas tout à fait ronde, on chiale aux misères du monde.
Et nom de Dieu, qu'est-ce qu'on se marre quand notre chanson redémarre. Et qu'on balance un bras d'honneur aux puissants qui font le malheur. On chante au cœur le même refrain à l'univers, à l'apéro. Tu vois frérot, on est frangins, on est des frangins mon frérot. On chante en cœur le même refrain à l'univers, à l'apéro. Tu vois frérot, on est frangins, on est des frangins mon frérot. On chante encore le même refrain à l'univers, à l'apéro. Tu vois frérot, on est frangins, on est des frangins mon frérot.
Bernard Joyer et Yves Jamais qui nous chantent Les Frangins. De Frangins, il va en être question tout de suite.
Ensemble sur Calade.
Allez, avec moi en studio, Éric Martin, illustrateur renommé du Beaujolais. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et puis par téléphone avec nous également, c'est David Besnet, journaliste et auteur. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et tous les deux, vous êtes les auteurs de bandes dessinées des Frères Bompiers. Et on va parler aujourd'hui de leur troisième aventure qui s'appelle La prophétie de l'ermite du Mont Brouilly. Avant ça, on va peut-être essayer de vous connaître un petit peu mieux. Tiens, on va commencer par vous, David Besnet. Vous avez, avant d'être auteur de bandes dessinées notamment, vous êtes journaliste. Vous avez eu un parcours de journaliste, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'exerce la profession. Je suis spécialisé plutôt dans toutes les questions agricoles et notamment viticoles. Alors, j'ai longtemps travaillé dans le Beaujolais. Aujourd'hui, je suis dans la Loire, pas très loin. Mais voilà, je suis originaire de Beaujolais et c'est un peu mon terroir de prédilection.
Vous avez beaucoup écrit sur le Beaujolais. Il y a un livre qui lui est consacré sur l'histoire du vin, notamment.
Oui, j'ai sorti également aux éditions Héraclite un livre qui s'appelle Beaujolais, Gloire et Déboire, l'an passé, voilà, qui retrace un petit peu l'histoire mouvementée du vignoble de ces 30 dernières années.
Ce livre, je trouve qu'il y a un lien avec le travail journalistique, puisque c'est une histoire. Écrire de la fiction, ça vous est venu comment ?
Alors, ça faisait longtemps, pendant des années, ça m'a trotté dans la tête. J'ai croisé Eric, que je connaissais depuis de longues années, sur un salon à Villefranche, et il venait de créer les personnages des Frères Bompiers. Il m'a proposé d'écrire le scénario du numéro 2, là, c'est ce que j'ai écrit, qui se passe à Clochemerle. Mmh. Et voilà, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu, donc voilà. J'ai continué avec le numéro 3.
Et donc là, il y a le troisième tome qui sort. Éric Martin, vous êtes illustrateur. Alors, on a tous vu déjà une affiche, un dessin de Éric Martin quelque part dans le Beaujolais.
Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, ça circule pas mal sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu la création de 8 affiches au niveau de villages et villes du Beaujolais. Donc, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Je remercie M. Miguet qui m'a proposé ce projet qui est vraiment magnifique pour moi. Et les retours que j'en ai aujourd'hui sont vraiment super.
Ensemble sur Calade.
Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot sur ce premier épisode, Eric.
Ce premier épisode, c'était vraiment pour lancer un petit peu cette aventure-là. Moi, les frères Bompiers, qui sont en fait les frères T, on ne va pas citer leur nom pour respecter leur volonté.
Je crois qu'ils ne veulent pas, oui.
Voilà, mais tout le monde les connaît. Donc voilà, c'était vraiment pour lancer cette aventure et les faire un petit peu connaître. Et voilà, donc cette histoire était purement inventée, mais reposait sur une légende du Beaujolais. Et pour moi, c'était important, voilà, qu'il y ait des notions un petit peu patrimoniales et puis historiques. Mmh. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les tomes qui suivent. Et c'est là-dessus que s'attarde David et qui connaît très bien le territoire.
Ouais, totalement. Il y a une aventure, il y a de l'humour aussi. Quasiment une blague à chaque planche, chaque page. Ouais. Mais il y a on apprend des choses sur le Beaujolais et sur ce qu'il y a à côté de nous aussi. Donc c'était une volonté.
Le support bande dessinée. Il y a plusieurs lectures dans cette bande dessinée, comme tu le dis, Mathieu. Et voilà, c'est ça qui rend le support intéressant. Il faut qu'on apprenne quelque chose, en fait.
Donc là, cette troisième aventure, la prophétie de l'ermite du Mont Brouilly. Déjà dans le titre, on sait où on va, mais pas que. Vous les avez pas mal baladé cette fois-ci, les frères Bompiers, ils voyagent beaucoup.
Oui, alors je vais commencer par répondre et je donnerai la parole à David. Le Mont Brouilly, pour moi, il m'est très cher puisque je suis originaire de Cercier et la colline, je l'ai vue très très longtemps depuis la terrasse de ma chambre. Donc c'est un endroit que j'ai beaucoup parcouru en VTT, en bicross à l'époque, hein, on appelait ça comme ça. Et voilà, donc c'est des paysages que je connais très bien et j'espère les avoir bien retranscrits. Voilà. Donc David, après, a souhaité les faire partir un petit peu ailleurs, et ouais, c'est pas mal.
David, pourquoi ces voyages-là, pourquoi vous avez eu envie de les emmener ailleurs ?
Alors déjà, à partir du moment où on travaille sur le Mont Brouilly, où on crée une aventure qui se passe au Mont Brouilly, déjà, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de fils à tirer, parce qu'il y a une histoire une histoire et des légendes aussi abondantes sur ce site emblématique du Beaujolais. Donc c'est voilà, c'est finalement assez facile de tirer sur ces fils. Mmh. Et effectivement, après, il y a le lien voilà avec Paris et la colline de Montmartre, puisque la confrérie des Amis de Brouilly va faire une vendange tous les ans au mois de septembre. Ouais. Et voilà, et ensuite un lien avec le Vatican, mais là j'en dis pas plus puisque je laisserai les lecteurs le découvrir.
Bon, il y a quand même ouais, la présence de la religion, de l'Église en tout cas, qui est bien présente dans cette histoire et qui est incarnée par un personnage rocambolesque qu'on a déjà vu, le curé Trécy.
Ouais. Alors moi j'ai amené les deux personnages des frères Bompier et David a amené le personnage du curé. Donc David, si tu veux en dire peut-être un peu
ouais,
plus.
Oui, alors pour tout vous dire, je me suis aussi inspiré d'une personne. Alors moi je suis originaire de Clochemerle et il y a une personne à Vaux-en-Beaujolais, alors je ne vais pas la citer non plus, mais qui aime se déguiser en curé lors de chaque manifestation. Et c'est un peu en pensant à lui que j'ai créé ce personnage. Et comme j'ai trouvé que le trio fonctionnait très bien dans le numéro 2, là, une étrange disparition à Clochemerle, j'en ai fait un personnage récurrent, là, voilà, l'ami des bons pieds qui les accompagne un peu dans leurs aventures.
Et du coup, la question qu'on se pose, là, quand on sait que les trois personnages ils sont inspirés de personnes réelles, est-ce que dans l'histoire, on peut croiser d'autres personnes réelles? Est-ce qu'il y a des visages que vous avez remis ou même David, alors, d'autres personnes comme ça?
Alors sur le scénario de David, oui, forcément il y a des personnages qui sont entre guillemets existants dans le Beaujolais. Après, je souhaite pas forcément les figurer, voilà, vraiment tels qu'ils sont dans la réalité.
D'accord. Ces trois personnages-là, les frères Bompier et puis le curé Trécy, c'est quand même des bons vivants. Et je trouve que c'est ça aussi le Beaujolais. Ça fait partie de cette histoire-là. On ne pouvait pas avoir des gens sobres dans cette bande dessinée.
Ouais, c'est sûr que voilà, c'est des bons vivants, c'est ce qu'on essaye de retransmettre, c'est ce que David, par son scénario, me retransmet. Moi, quand j'ai lu le scénario du Mont Brouilly, enfin, j'étais ravi, ça allait vraiment avec cette personnalité-là, ce que je recherche, ce savoir-vivre, cette fraternité, cette convivialité qu'on a en Beaujolais, donc voilà.
Et comment vous travaillez du coup tous les deux, comment est-ce que vous collaborez et vous influencez dans la création de cette bande dessinée?
Alors David commence par le scénario, moi je en prends connaissance, après il y a des petites choses, peut-être des anecdotes, des choses que j'aime rajouter aussi parce que sur tel ou tel personnage ou le faire passer à tel endroit parce que j'ai un souvenir particulier ici. Et donc on travaille vraiment en collaboration étroite là-dessus sur l'élaboration de la bande dessinée. Je commence à crayonner, rapide. Je lui soumets, voir si lui, il a d'autres idées, d'autres plans, enfin voilà, et on avance un petit peu comme ça, ouais.
Et est-ce que chacun, en ayant une casquette et un axe, il y a des contraintes que peut voir le scénariste et que l'illustrateur ne voit pas forcément, et inversement, est-ce qu'il y a des fois David, le scénariste, qui dit « j'aimerais bien faire ça » et puis illustrer, il faut en fait faire 4 pages pour une action, je sais pas.
C'est ça, au niveau du rythme, parfois voilà, en bande dessinée, on va pouvoir se permettre d'éluder pas mal de cases pour vraiment donner du rythme à la bande dessinée. Au contraire, aller un petit peu plus loin sur d'autres pages, enfin plus de pages pour ralentir un peu le rythme. Donc ça, voilà, ça, on en discute et on adapte le scénario en fonction.
À la fin de la prophétie de l'ermite, on va pas raconter la fin de l'histoire, il faut que les auditeurs la découvrent, mais ils laissent sous-entendre qu'ils vont partir en balade dans un autre village du Beaujolais. Ça annonce un quatrième tome, ça va continuer comme ça, les aventures des frères Bompier, c'est fait pour durer?
Alors je laisse David répondre là-dessus.
Oui, effectivement, pour tout vous dire, je suis actuellement sur le scénario de l'épisode 4 et qui est bien avancé et qui va se passer donc à Beaujeu au moment des Sarmentelles. Donc un autre grand moment du calendrier Beaujolais.
Ouais.
Et voilà, un temps fort, et puis voilà, parler aussi du Beaujolais nouveau à travers les aventures des frères Bompier, je trouve que voilà, c'est assez propice.
Ouais, ça tombe sous le sens. Là, c'est le premier tome, non, c'est le deuxième tome qui est aux éditions Héraclite.
C'est le premier tome.
C'est le premier, d'accord. Et les premiers étaient auto-édités ou...
Ils étaient auto-édités, les premiers. Le numéro 2 à Clochemerle, on a fait une petite réédition parce qu'il n'y en avait plus et il était pas mal demandé. Donc du coup, Damien Corban des éditions Héraclite l'a pris aussi sous son aile.
Il l'a réédité, voilà, d'accord.
Donc on le remercie pour ça aussi, ouais.
Et donc, comment est-ce qu'on peut le trouver, ce nouveau tome, sur le site internet des éditions, dans les librairies locales?
Oui, tout à fait. Donc, les librairies locales, les éditions Héraclite sont assez bien implantées sur le territoire, au niveau du site internet aussi de l'éditeur. Et puis, éventuellement, vraiment, si les gens ne trouvent pas directement sur nos Facebook, il y a une page dédiée sur Facebook, Les Aventures des Frères Bompier.
Où on peut vous contacter. Je crois que le 25 juin, il y avait une rencontre pour présenter le livre, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais. David, si tu... je te laisse parler un petit peu.
Oui, c'était donc à l'espace des Brouillis qu'on a lancé en fait la BD. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on s'était travaillé sur le Mont Brouillis, effectivement, l'espace des Brouillis à Saint-Nagé semblait le lieu tout indiqué pour lancer cette BD. Donc, et en même temps rendre hommage aussi donc à Pierre T, donc le personnage qui a inspiré les frères Bompier, qui est décédé l'an passé, alors du coup un peu discrètement puisque c'était en avril dernier, ouais. Il y a un peu plus d'un an, et c'était en plein Covid, en plein confinement, donc voilà, on n'avait pas pu lui rendre hommage, donc c'est ce qu'on a fait le 25 juin. Jacques Brouillas est venu faire une petite biographie de Pierre, et certains textes ont été lus, puisque ce sont des personnages bon vivants, mais aussi ce sont des personnages très érudits sur le Beaujolais.
Ouais.
Donc Pierre écrivait beaucoup, et voilà, donc on lui a rendu l'hommage qu'il méritait le 25 juin.
Et le lectorat des frères Bompier, ces rencontres-là, l'occasion de voir des gens qui ont lu peut-être les premiers tomes, qui vont lire le troisième, le retour du lectorat, est-ce que vous avez eu l'occasion aussi d'avoir des réactions de personnes qui vous ont lu, qui reconnaissent les personnages, qui reconnaissent les lieux, qui en apprennent sur le Beaujolais? Comment les gens réagissent à ça, David?
J'ai vu passer quelques messages sur Facebook, là, des gens qui avaient déjà lu effectivement la prophétie de l'ermite du Mont Brouillé, qui je crois ont apprécié le travail. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi le temps que ces personnages s'installent. Alors ceux qui les avaient ratés sur les deux premières éditions, parfois en profitent pour les recommander. Pour ne pas commencer par l'épisode 3, même si chaque épisode est indépendant et on peut lire que le 3 si on veut. Mais voilà, du coup, ceux qui ne connaissaient pas encore les frères Bompier, voilà, se sont procurés les deux premiers tomes, donc c'est très encourageant, et on a envie d'ancrer ces personnages sur le territoire.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces beaux personnages, et effectivement c'est un bel hommage aussi à Pierre T que ces bandes dessinées existent là. Merci beaucoup à tous les deux, David Besnay, Eric Martin, pour ce moment passé avec nous.
Merci Mathieu.
On va parler d'ensemble sur Calade d'économie dans quelques minutes, mais d'abord on va faire comme les frères Bompier, on va aller faire un tour à Rome, on écoute le Noiser avec Weekend à Rome 2.0.
Finalement, je crois que la fontaine de Trévis, je la préfère chez Fellini. Je t'écoute, hein, t'inquiète, mais attends juste 2 secondes. J'ai des messages à l'infini. Bene al dente, je regarde vaguement les gens passer. C'est bon, c'est vrai, mais là c'est dur. J'ai plus de batterie et rien pour recharger. J'irai au bout du monde avec toi, mon amour. Mais s'il y a pas le wifi, je ferai demi-tour. J'irai pas le wifi, je ferai demi-tour. Je voudrais retourner à la chapelle Sixtine pour prendre des photos. Ok, ok, mais pas trop longtemps là-bas. J'ai pas beaucoup de réseau. Il faut que je te dise quelque chose, ça fait un moment que j'y pense. Je sais pas si tu captes, mais je crois que j'ai envie de m'engager. Attends, attends, t'as dit quoi là? On capte plus la 4G? J'irai au bout du monde avec toi, mon amour. Mais s'il y a pas le wifi, je ferai demi-tour. J'irai au bout du monde avec toi, mon amour. Mais s'il y a pas le wifi, je ferai demi-tour. Week-end wifi, tous les 200 personnes, 3 jours et 2 nuits sur ton téléphone. T'auras rien vu de Rome. T'auras rien vu de Rome. T'auras rien perçu le soir de la rumeur de la ville. Des gens qui parlent loin, du temps qui file. T'auras rien vu de Rome, rien entendu. T'auras même pas vu que j'étais près de toi. Non, que tous les chemins nous menaient là. J'irai au bout du monde avec toi, mon amour. Mais s'il y a pas le wifi, je ferai demi-tour. J'irai au bout du monde avec toi, mon amour. Mais s'il y a pas le wifi, je ferai demi-tour.
Weekend à Rome 2.0, c'était le Noiser. C'est un petit peu moins romantique qu'avec Étienne Dao. Allez, on continue avec le prof Patrick.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Allez, il est l'heure de parler donc économie avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
Ah ah, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai en tête depuis le début de cette émission, il y a un peu plus d'un an.
Ah
autant
ouais.
Dire, cher Mathieu, que tu as compris que j'étais quand même le roi de la procrastination.
Très bien.
Et bon, ce
alors,
sujet,
de quoi
c'est quoi
ouais.
Ah ah ah, c'est la voiture électrique.
Ah,
eh oui.
Sujet à débat.
Ouais, ouais. Alors, pour quelle raison j'ai voulu parler de ça? Eh bien, petit rappel, la voiture électrique connaît une impulsion très forte depuis un an et demi en raison des réglementations très sévères qui ont été mises en place par l'Union européenne sur les émissions de CO2 des véhicules automobiles. En gros, pour respecter les seuils d'émissions de CO2 qui sont désormais obligatoires au niveau Union européenne, les constructeurs n'ont pas d'autre choix que de vendre massivement des voitures électriques, sinon ils se prennent de lourdes amendes en fin d'année. Lourdes, hein, vraiment lourdes les amendes. Donc c'est parti, depuis janvier 2020 pour être précis, c'est la course à la voiture électrique chez tous les constructeurs auto. En apparence, c'est censé être mieux pour la planète ce truc-là, mais est-ce vraiment le cas?
La question se pose.
Donc Mathieu, on va poser une problématique, hein. Je ne suis pas prof Patrick pour rien, on va poser la problématique suivante. La voiture électrique est-elle une bonne idée pour la planète, oui ou non?
Très bien, et ben allons-y.
C'est parti, on y va. Premier point, pour fabriquer une voiture électrique, il faut une batterie qui va stocker de l'électricité. Et pour fabriquer des batteries électriques, il faut tout un tas de métaux qu'on appelle des métaux rares. Lithium, cobalt, manganèse, nickel, j'en passe, et des meilleurs. Alors, ils sont rares ces métaux, ça c'est déjà un problème, hein, parce que on veut inonder la planète de voitures électriques avec des métaux rares, on a ouais. Un souci déjà. Hein. En fait, tu vas voir que c'est pas le plus gros de nos soucis. En fait, le problème le plus sérieux des métaux rares, c'est leur extraction, qui est affreusement polluante.
D'accord.
Affreusement polluante. C'est une horreur. Ok ? Donc voilà ce que dit par exemple un rapport de la Banque mondiale qui a été publié en 2017. C'est un rapport qui s'appelle, dont le titre était « Le rôle croissant des métaux et des minéraux dans un futur à bas carbone ». Voilà, un titre bien, bien technos. Hein, voilà. J'ouvre les guillemets, je vais te citer ce rapport de la Banque mondiale. « Les technologies qui pourraient permettre le passage à une énergie propre s'avèrent en réalité plus intensives en matériaux, dans leur composition, que les systèmes actuels fondés sur les énergies fossiles, que les bagnoles actuelles ». Pour le dire simplement, un avenir fondé sur les technologies vertes exige beaucoup de matières premières, cuivre, argent, aluminium, nickel, cobalt, terres rares, qui, si elles ne sont pas correctement gérées, pourraient empêcher les pays producteurs d'atteindre leurs objectifs en matière de climat et de développement durable, je ferme les guillemets. Mathieu, le problème, c'est que les matières premières en question qu'ils ont citées, elles ne sont pas bien gérées. Hein, c'est, y a pas besoin de mettre un « si ». Elles ne sont pas bien gérées. Alors, on va prendre un exemple très simple pour que tu vois plus clairement. Hein, le lithium. Prenons l'exemple du lithium. Une batterie de Renault Zoé, la fameuse Renault électrique, peut contenir 8 kg de lithium. Une batterie de Tesla, c'est 15 kg de lithium. La batterie d'un simple vélo électrique, c'est 300 grammes de lithium. Pardon. Bref. Ça fait beaucoup de lithium au total. Alors, ça fait quoi l'extraction du lithium ? Eh ben, c'est, je vais prendre l'exemple d'une mine qui est à Atacama, en Chili, une des plus grosses mines au monde. C'est, ça prélève, j'espère que tu es assis, j'espère les auditeurs que vous êtes assis, 200 millions de litres d'eau chaque jour.
200 millions de litres d'eau ?
Ouais, tous D'accord. les jours. Résultat, ben, la nappe phréatique s'effondre, il n'y a pas de souci. Les sols s'assèchent, la végétation se détruit, au détriment évidemment des animaux, des cultures et des gens. Bref, on rend la vie impossible à toute la région. Et on pourrait répéter ce type d'analyse avec quasiment chacun des métaux rares qui existent, c'est-à-dire le nickel, le manganèse, le cobalt, etc. Mais aussi des métaux qui ne sont pas classés métaux rares, le cuivre et l'aluminium. Exemple, tiens. Il y a 2 à 3 fois plus d'aluminium dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Or, il faut savoir que la production d'aluminium est très lourdement émettrice de gaz à effet de serre. Elle consomme, à quantité égale produite, 3 fois plus d'énergie que l'acier et l'aluminium, d'accord ? Donc, tout l'aluminium produit pour fabriquer la voiture électrique consomme 3 fois plus d'énergie que la même bagnole qui est fabriquée avec de l'acier. Deuxième point. Ok, on va dire, on va être très cynique, hein, tu sais comme je suis parfois, on va être très cynique, on va dire, ouais, mais on s'en fout, hein, parce que bon, c'est pas chez nous, donc qu'ils aillent se faire foutre, hein, d'accord ? Ouais. Donc on va poser la vraie question, celle qui nous intéresse, est-ce que le jeu en vaut la chandelle à la fin ? Même on va être rationnel, hein, on remet la casquette, prof Patrick, économie, l'économie adore la rationalité, à partir de combien de kilomètres une voiture électrique est-elle plus « propre », entre guillemets, que son équivalent thermique ? Voilà une bonne question.
Ouais.
Alors là, des études, il y en a, en veux-tu, en voilà. Hein. Entre 2010 et 2019, il n'y a pas moins de 85 études qui ont porté sur cette question. D'accord ? Donc on doit avoir une réponse claire à cette question, Mathieu. Hein. D'accord ?
Pour 85 études, oui, j'imagine.
Bah ouais, et bah non. Bah non, c'est pas très clair cette histoire.
Mince.
Ouais, parce qu'en fait, la réponse, elle dépend de tout un tas de variables. Exemple de variables. Est-ce que l'électricité utilisée est d'origine fossile ou d'origine renouvelable ? Est-ce qu'on a intégré le coût de recyclage de la batterie à la fin de sa vie, hein ? Est-ce que cette batterie est fabriquée en Chine ou en Europe ? Est-ce que cette batterie va être à la fin de sa vie réutilisée dans d'autres domaines ou pas ? Quelle est la durée de vie de la batterie ? Quelle est la taille de la batterie ? Tu vois, en fait, chaque variable, si elle varie, ce qui est le cas souvent, va donner des réponses différentes à la question posée. Bon, si on veut malgré tout donner des chiffres concrets, en version très optimiste, on part de 40 000 km pour rendre rentable un petit véhicule électrique. Alors le problème, c'est que c'est pas que très optimiste, en fait c'est fondé sur l'hypothèse d'un processus de production qui n'utiliserait aucune énergie fossile, en gros ça n'existe pas.
C'est, oui, d'accord, c'est impossible.
Et c'est fondé sur la deuxième hypothèse qu'on ne prend pas en compte les émissions de CO2 qui surviendront. On n'aura pas le choix lors du recyclage de la batterie. Donc autant dire que le 40 000, c'est bidon.
Ouais.
D'accord. Et ça va jusqu'à une fourchette entre 150 000 et 200 000 km pour rendre rentable une voiture électrique par rapport à un équivalent thermique. Mais là aussi, c'est basé sur des hypothèses. Il faut que la batterie fonctionne déjà sur un tel kilométrage. Et actuellement, toutes les batteries n'ont pas la puissance pour tenir le choc sur un tel kilométrage.
200 km, ouais.
Deuxièmement, ces calculs-là intègrent toujours des notions, des conditions très optimistes du genre « Oui, mais les batteries sont produites en Europe. » Bah, oui, mon petit gars, actuellement, il n'y a pas beaucoup de batteries produites en Europe. Elles sont toutes produites en Chine. Donc voilà, 150 000 à 200 000 km selon des conditions très optimistes, etc. Bref, le problème, c'est que la particularité de la voiture électrique par rapport aux véhicules thermiques que l'on connaît, c'est que leur production demande beaucoup plus d'énergie et émet 2 fois plus de gaz à effet de serre dans cette phase de production. Alors vous allez me dire, oui, il se rattrape un petit peu lors de la phase de la durée de vie du véhicule, puisque là, il n'émet pas de gaz à effet de serre, c'est vrai. Mais ce n'est pas évident de rattraper le point de départ. Par exemple, on a un rapport de 2018 de l'Agence européenne de l'environnement qui dit la chose suivante. Elle nous dit que les émissions de NOx, de SO2 et de particules pendant la production des véhicules électriques sont 1,5 à 2 fois supérieure à celle des véhicules thermiques. Ce qui est un comble parce que c'est justement à cause de ce type d'émissions, hein, de particules fines, que l'on a crucifié les véhicules diesel.
Ouais.
Donc c'est quand même un petit peu problématique. Alors tu vas me dire, encore une fois, oui, mais durant la durée de vie de la voiture électrique, elle n'en émet pas.
Il n'y a plus de problème.
Bon, malgré tout. Les conséquences en matière de pollution des sols et de pollution des eaux sont malgré tout doublées, voire triplées par rapport à la production de voitures thermiques, d'accord. Et encore, on se base là sur des chiffres fournis par les entreprises, donc sûrement minorés, hein, d'accord, c'est sans doute pire que ça. Principalement à cause donc de la phase d'extraction et d'affinage des fameux métaux dont on a parlé dans la première partie. Bref, concrètement, ça fait quoi ? Ben, ça fait qu'on a des sols qui deviennent intoxiqués, qui s'appauvrissent, d'accord ? On a des réserves d'eau douce qui s'appauvrissent et qui perdent de la vie. On a des sols qui s'artificialisent, on a de la biodiversité qui se dégrade, on a des résultats toxiques pour les êtres humains, on a des pollutions radioactives, on a des terres agricoles qui sont prises alors qu'elles seraient bien utiles pour la production agricole. Mm-hmm. Conclusion.
Génial.
La voiture électrique est d'abord un choix de déplacer notre pollution à nous, pays occidentaux, dans d'autres pays. Mm-hmm. D'accord ?
Bah, c'est l'autre bout du monde.
Et on déplace ça dans les pays qui produisent des batteries et qui extraient les métaux rares, notamment. Donc, ce n'est pas une bonne idée pour la planète en tant que telle. Pour que ce soit une bonne idée pour la planète, il faut poser des conditions. Les conditions, c'est qu'en fait, il faudrait restreindre les véhicules électriques à des petits véhicules avec des petites batteries utilisées intensivement. Donc, des petits véhicules de ville uniquement. Mais surtout pas des gros véhicules à autonomie rallongée, genre Tesla. Alors, regarde autour de toi, Mathieu. Ce n'est pas du tout la direction qu'a pris l'industrie automobile.
C'est des bons gros SUV, là, qui sont en train de
nous faire. Exactement. On n'a pas compris le Schmilblick. J'en ai terminé, Mathieu.
Bah, c'est super. Encore une rubrique bien joyeuse.
Il pleut, on va se jeter dans la Saône. Ouais. C'est parti, c'était le prof Patrick. Je vous remercie.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Bon, et ben après avoir parlé de voiture électrique, vous pouvez toujours conduire ma voiture, c'est ce que nous chantent les Beatles, Drive My Car.
Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. I told that girl that my prospects were good. And she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, 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 yeah. Baby, you can drive my car. I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. I told that girl I could start right away. When she said, listen babe, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart. But I found a driver and that's a start. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah.
Bip, 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 yeah, c'était les Beatles, bien sûr.
Vive le cinéma!
Oh non, c'est pas bon, c'est pas bon!
Vive le cinéma!
C'est mieux comme ça, mon coussin.
Bah non, y'a pas, je vois pas.
Vive le cinéma!
Voilà, exactement.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est parti pour parler des sorties ciné de la semaine. Et le blockbuster qui sort ce mercredi 7 juillet, le gros bulldozer hollywoodien de la semaine, et ben c'est le dernier film de l'univers cinématographique Marvel, c'est Black Widow. La première héroïne à avoir fait son apparition dans la franchise au cinéma. Elle a enfin son film solo après être apparue pour la première fois en 2010 dans Iron Man 2, le film qui met en lumière le passé sombre de cette espionne aux multiples talents.
Vous ne savez pas tout de moi. J'ai vécu des tas de vies. Avant d'être une Avenger.
À toi de jouer. Au boulot.
Mets ta ceinture. Oui, maman.
Black Widow, voilà, pour voir un petit peu de spectaculaire, un petit peu beaucoup de spectaculaire au cinéma. Et tout aussi spectaculaire, j'imagine, mais plus pour les enfants cette fois, c'est The Croods 2, la suite des aventures de la famille préhistorique qui vont rencontrer une autre famille, les Betterman.
On est la première famille du monde, les Croods.
Ça va encore être une belle journée.
Papa dit que la meute doit toujours rester groupée.
Bravo, ma fille!
Boum! On cherche l'endroit idéal pour s'installer.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est la fin du monde.
C'est curieux, comme toutes ces plantes comestibles sont parfaitement alignées. Génial!
Nous sommes les Betterman.
Les Betterman.
Autrement dit, les meilleurs.
C'est là que j'habite.
C'est spacieux.
Voilà pour les Croods donc, qui sort au cinéma ce mercredi. Allez, direction le local maintenant et le cinéma 400 coups à Villefranche avec beaucoup de films à l'affiche cette semaine. Parmi ceux dont on vous a déjà parlé, vous retrouvez Nomadland, Les Deux Alfred, Minari, Gagarine, The Father, Slalom, Annette, Sous le ciel d'Alice. Et puis, il y a encore de la place pour quelques nouveautés. Tout d'abord, le film L'Oubli que nous serons de Fernando Trueba, adapté de faits réels. C'est l'histoire du docteur Hector Abad Gomez qui lutte pour sortir les habitants de Medellín de la misère, et ses idées, ses opinions lui valent beaucoup d'animosité. L'Oubli que nous serons.
Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Film de Fernando Trueba, on y retrouve le portrait d'un homme, une chronique familiale et l'histoire d'un pays dans un seul film. Et c'est au cinéma 400 coups et c'est toute la semaine. Autre sortie qui devra attendre vendredi, sacrilège de sortir un film vendredi, oui, mais c'est à cause du festival de Cannes, donc ça va. Et puis de sacrilège, il va en être question puisqu'il s'agit du film Benedetta. Film de Paul Verhoeven avec Virginie Efira en bonne sœur miraculeuse et miraculée qui va avoir une aventure avec une autre femme.
J'ai vu Jésus. Il est venu à moi. Tu es son épouse, n'est-ce pas? C'est Jésus qui m'a fait ça.
Les stigmates!
Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur.
Sancta Benedetta. Tu t'appelles comment?
Sœur Benedetta, et toi?
Bartholoméa. Je vais y tomber.
C'est Dieu qui a placé cette jeune fille sur ton chemin.
Mais il faut qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas.
Dieu te guidera.
Ce qui se passe ici est un blasphème.
Ceux qui comptent le savent déjà.
Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est rebugée. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires.
On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe? Ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins?
Voilà, Benedetta de Paul Verhoeven qui sera à l'affiche à partir de ce vendredi puisqu'il est programmé au Festival de Cannes et notamment à l'affiche du cinéma 400 coups. Également Benedetta de Paul Verhoeven, on a entendu Virginie Efira, Charlotte Rampling et puis la voix de Lambert Wilson qui sont à l'affiche de ce film. Pour terminer, une séance spéciale toujours au cinéma 400 coups, c'est la fine équipe du Bush mercredi qui est programmé. Rémi Camus et son équipe vous présentent ce documentaire qui suit la folle aventure vécue par 6 voyageurs, pas des aventuriers, des voyageurs qui ont traversé 380 km de désert australien pour rejoindre à pied une communauté aborigène à de Kaltukadjara. La fine équipe du Bush.
Je pense que ce stage-là, il va me permettre de me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses, notamment de sortir de sa zone de confort.
Et puis tenir sur un peu plus que quelques jours, comme ça va être 2 semaines assez intenses, donc c'est de voir un peu aussi sur la durée ce que ça peut donner.
Là, je te jure, j'en ai marre. Ça fait que 2 jours.
La fine équipe du Bush, voilà, qui est donc programmée mercredi 10 juillet à 16h30 au 400 coups. Voilà pour le programme de cette semaine et c'est là-dessus que va se terminer cette émission Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous retrouverez l'émission en podcast sur radio-calade.fr en réécoute demain matin à 10h. Et puis le rendez-vous pour le direct, c'est demain à 12h12. D'ici là, prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée. À demain. Ciao, ciao. Je vous laisse avec Saint Paul and the Broken Bones. Un excellent titre. Voici Apollo.
Baby, I love you, baby. Running all through my brain, wishing that I could stay and just hold you, baby. Just to hold you, baby.